Mais vous avez, est-ce que vous avez le texte?
Yod Gimel.
Yod Gimel, exactement, de l'édition classique du Tiferet Israël. Voilà.
Colonne de gauche, en bas.
Ok. Bien. Alors, je synthétise ce que nous avons vu. La Gemara dans Sanhedrin, que je reprends, ça déteste à Moudbet. Je n'ai pas le texte. Abraham, c'est le même texte que la semaine dernière. Alors, ça déteste à Moudbet. Alors, la Gemara. Ça des têtes à Moudbet dans Sanhedrin nous dit Amar Rabbi Lazar. Amar Rabbi Lazar. Kol Adam Lamal Nivra. Tout homme est créé pour le labeur. Donc, que veut le Maharal avec ce passage? Le Maharal veut dire que quand bien même l'homme est-il l'aboutissement de la création, l'humain est l'aboutissement de la création, mais la particularité de l'humain, c'est qu'il est en potentiel et pas en effectif. Et que l'homme est toujours quelque part non abouti. Ça, c'est en soi, c'est un... C'est quelque chose d'important parce que dans notre existence, personnellement, ça me pose problème. Ça pose problème. Bonjour Nicolas. Personnellement, ça pose problème la perception que on est toujours déficient, on est toujours un peu justement qu'on n'est pas abouti, ça fait un problème. Et encore un point, je pense très important dans les relations de couple, parce que disons les gens de notre communauté, qui souvent font des études importantes. Je prends un exemple sans aucune acrimonie, bien évidemment. Par exemple, il y a des gens qui sont experts comptables.
Il y en a beaucoup.
Ouais.
Il n'y a que ça.
Alors, moi, je connais un peu des experts comptables. Dans leur travail, il faut que ça soit au millipoil. C'est des comptes. Il faut que ça soit au millipoil. Or, comment après peuvent-ils vivre avec des êtres humains qui ne sont pas au millipoil. Et nous ne sommes pas au millipoil, fondamentalement. Ça, c'est un grand, grand problème. Ça veut dire, il y en a, par exemple, nous sommes dans un cursus d'excellence. Voilà. Nous allons faire un cursus universitaire d'excellence. Et après, comment quelqu'un qui a fait un cursus d'excellence, on lui demande d'être excellent, je ne sais pas dans quelle discipline, et plus il est excellent, plus on l'applaudit. Après, cette personne d'excellence va vivre maritalement avec quelqu'un et ce quelqu'un va lui faire remarquer qu'il n'est pas du tout dans l'excellence, qu'il est flemmard, qu'il, quand il mange, il rote, que sais-je, qu'il n'a pas des bonnes manières, qu'il ressemble à son père, que j'en passe et des meilleurs. Et c'est un problème.
Et d'en gâter.
C'est un problème. Ça paraît peut-être un peu humoristique, mais c'est un problème. Moi, je vois, tu as des jeunes filles, on leur présente des garçons. Or, un garçon, fondamentalement, même s'il a par exemple 23 ans. Alors, si déjà, quand on a passé un certain âge, on se perçoit non abouti, raison de plus, quand quelqu'un il a 23 ans, qu'il est non abouti. Elle dit oui, mais oui, il est comme ci, il est comme ça. mais on est fondamentalement pas abouti. Donc c'est une question fondamentale ce que ce passage nous enseigne. Je reprends. Donc je suis dans Sanhedrin, Sadetet Amoudbet. Amar Rabbi Elazar. Kol Adam la man nivra. Tout homme pour le labeur. Donc je traduis en clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes des êtres non aboutis et qui œuvrent tout le temps pour que notre potentiel sorte à l'effectif. Shenema, Kadam, Lamal, Yudan, Lula, l'homme est né pour le labeur. Ini, Yodea, Im, Lamal, Pe, Nivra, Im, Lamal, Melacha, Nivra. Je ne sais pas si c'est pour labeur de la bouche qu'il a été créé, ou bien pour le labeur du travail. Alors là aussi, on a vu dans les séances précédentes que toute la réalité de l'homme est dans une transformation. L'homme transforme. L'homme ne mange pas les choses non transformées. La transformation est constante. On ne peut pas, on mange pas des grains de blé, on n'est pas des musaraignes. On transforme le blé avec plein d'étapes pour arriver à quelque chose, un produit fini. Donc peut-être que c'est la vocation de l'homme de transformer le monde par des actions, ou bien la vocation structurelle de l'homme est d'arriver à un aboutissement par la parole qui en vérité est le plus significatif de l'homme. Parce que la transformation du monde peut être transformé par les scolopendres. Aussi, les scolopendres transforment le monde. Est-ce que vous êtes d'accord?
Complètement, bien sûr.
Voilà. Donc, est-ce que notre but est de transformer le monde, de construire des routes et des ponts qui, en vérité, c'est ce que font les scolopendres à un niveau plus élevé? Alors, ou les castors? Alors, là-dessus, on dit non. On apprend du verset qui a kaf alaf piou, je scelle sur lui sa bouche. C'est-à-dire le labeur et le labeur de la bouche. Aveolère, la mal, pé. L'homme a été créé pour le labeur de la bouche. Voilà. Maintenant, vadaim ini yodea, im la mal Torah, il la mal sicha. Mais pour le moment, je ne sais pas si l'homme a été créé pour le labeur de la Torah ou pour le labeur de la conversation. Si on dit, Lo yamush sefer atozra aze mipicha, ne bougera pas ce livre de Torah de ta bouche. Donc on voit, Ave Omer, la mal Torah nivra, que l'homme, le but, la création de l'homme, la vocation structurelle de l'homme est pour le labeur de la Torah. Alors c'est là-dessus qu'on en était. Alors la dernière séance, il y a une semaine, on a vu le labeur de la conversation, parce que la conversation est un labeur. Entre parenthèses, c'est un point aussi très très important, parce qu'on dit qu'on est dans l'ère de la communication. Or c'est pas vrai, on n'est pas dans l'ère de la communication, on est dans l'ère des signaux. Par exemple, il y a quelqu'un, il va te dire, oui, moi je suis spécialiste en communication. Spécialiste en communication, en com. Non, je ne dis pas en communication. Spécialiste en com, évidemment. Alors, sans aucune acrimonie, bien évidemment, mais me semble-t-il, ce qu'on appelle la communication, en vérité, c'est des signaux. C'est pas un dialogue. C'est pas un échange, un échange de paroles. Un échange de paroles, c'est un labeur, me semble-t-il, qui n'a rien à voir avec les signaux de ce qu'on appelle la communication aujourd'hui. C'est un débat, je lance le débat, messieurs.
Oui, tout à fait, oui, c'est une technique, C'est une technique de mise en relation de différentes personnes ou de différentes sphères pour qu'il y ait une interconnexion entre ces différentes personnes ou ces différentes sphères. Mais c'est pas pour autant qu'il y a une parole qui émerge.
Voilà, voilà, absolument. Ça veut dire, à la limite, il y en a qui disent que les dauphins sont des animaux très évolués, hein. Je ne sais pas, moi, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est un dauphin, mais
il paraît. C'est hyper marin.
Ouais. Il paraît qu'ils ont un langage. Mais ce langage, c'est des signaux. C'est des signaux. Nous aussi, on peut faire des signaux. L'humain aussi peut faire des signaux. Quand on parle la mal sira, c'est arriver à exprimer par le langage, faire sortir. À l'exprimer des choses intimes.
Des pensées.
Des pensées, des choses intimes. C'est un travail. C'est un travail. Et ça, c'est dans cette direction que l'humain est spécifique. C'est très, 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 très important. C'est très important parce que on est dans une confrontation, on dit...
Il y aurait une régression, alors.
Quelqu'un est spécialiste en communication. Les spécialistes en communication, c'est souvent plutôt des signaux que des conversations.
C'est des mises en relation de signaux, et non pas de paroles.
Pas de paroles. Mais, là-dessus, la Gemara dit, mais non, la structure de l'humain, c'est pas ça. C'est le Amal Torah, c'est-à-dire, et ça, bon, vous allez me dire, c'est assez élitiste, mais comme dit Maïmonide, la plupart d'entre nous, on est des figurants. Le monde a été créé pour, dit Maïmonide, deux personnes, toutes les une ou deux générations. Et le reste, c'est pour que la personne qui est finalement la base de la base de la création ne soit pas seul et soit pas déprimé d'être seul. Mais en vérité, pourquoi? Parce que là, la Gemara dit, c'est quoi le but de la création de l'homme? C'est Amal Torah, c'est le labeur dans la Torah. C'est quoi le labeur dans la Torah? Et ben, c'est ce que nous allons voir là maintenant, hein. C'est là où nous en étions la dernière fois. Alors, je reprends. Donc, effectivement, c'est le Yud Gimel, la colonne de gauche. Le Fikar Amar, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17e ligne avant la fin de la page. Le Fikar Amar, c'est pourquoi il dit Lo Yamush, c'est faire à Torah, Azem et Pira, ne bougera pas ce livre de Torah de ta bouche. Étant donné que l'homme, sa perfection est potentielle, donc il doit mettre tout son investissement et son labeur dans quelque chose qui est sa perfection véritable pour laquelle il a été créé. Comme dit le verset, Adam la maliulad, shirotzelomar, c'est-à-dire. Kitarlit malato ou el a amal, c'est-à-dire la vocation de son niveau spécifique, c'est le labeur chez où yetsia la fal, dans lequel il va exprimer son potentiel véritable, c'est la Torah. Omnam al tomar, cependant, al tomar kem yetsia shlemut adam el afal efchar sheyotse shemuto legamre el afal. Donc, si vous voulez, la Torah, Yann Gemara, Davkouf et Amoud Bet dans le traité Shabbat qui dit si un juif meurt et qu'on est présent au moment du décès, on doit déchirer son vêtement. On va faire Kriya. Kriya, pourquoi? La Gemara dit c'est comme un Sefer Torah qui est brûlé. Un juif qui meurt, même s'il n'est pas très féru, c'est comme un livre de Torah qui est brûlé. Alors, il y a plusieurs commentateurs là-dessus. Il y a un commentateur qui dit que si la personne, c'est un Talmid Chacham, ce n'est pas un Sefer Torah qui est brûlé. Un Talmid Chacham, c'est pas de ça dont on parle là-bas. Là-bas, on parle d'un juif qui est pas dans l'étude de la Torah. Tout juif, c'est un Sefer Torah. Mais le Sefer Torah, c'est un potentiel, c'est des lettres. Vous voyez là, c'est des lettres. Ces lettres, il faut en faire quelque chose. Ça, c'est pour ça que nous, on est venus dans le monde. Pour que ce Sefer Torah, il devienne vivant. Quand on dit « ne bougera pas le Sefer Torah de ta bouche », c'est bizarre. Un Sefer Torah de ma bouche. Moi, je dirais ne bougera pas un shfarma de ma bouche. Ne bougera pas une chicha de ma bouche. Un chewing-gum de ma bouche. Qu'est-ce que c'est un Sefer Torah de ma bouche ? C'est-à-dire que nous, on doit transformer le Sefer Torah en faisant une Torah vivante. Or, quelqu'un, un juif qui n'a pas étudié la Torah, c'est un drame, c'est un Sefer Torah qui est brûlé. Pourquoi ? Parce que lui, c'est un Sefer Torah et n'en a rien fait. C'est une catastrophe. Donc, quelqu'un qui est présent au décès d'un juif qui n'est pas érudit en Torah, et cette personne, elle meurt, c'est comme si on brûlait un Sefer Torah. Parce que le Sefer Torah, c'est un potentiel, c'est pas un effectif. Le Sefer Torah, il faut le lire, il faut l'apprendre, il faut l'appliquer. Mais si quelqu'un, il ne lit pas et il ne l'applique pas, son potentiel, il est passé à côté. Et c'est une catastrophe. Une catastrophe. Alors c'est pour ça, c'est comme quand il y a un décès d'un proche, on déchire son vêtement parce que c'est un déchirement, une déchirure. De la même manière, un juif qui n'est pas féru en Torah, qui meurt, c'est une catastrophe. Parce que tant qu'il était vivant, tu pourrais dire il peut se ressaisir, il peut faire quelque chose. Mais là, quand il est mort, il ne l'a pas fait. Basta. C'est une catastrophe. Alors là, c'est ce qu'il dit ici. Que nous, qu'est-ce qu'on a à faire ? De prendre le Sefer Torah et de faire chacun. Pas simplement, ah oui, je suis allé sur Internet, j'ai entendu un cours très intéressant de Rav Zizek. Catastrophe. C'est une catastrophe, les mecs. C'est une catastrophe.
N'hésitons pas à le dire.
C'est
un dimanche matin.
C'est que vous fassiez des cours, voilà.
Ouais.
C'est ça le but. C'est pas que moi je fasse cours, c'est que vous fassiez cours.
C'est transport.
Non mais.
Ouais. Il va négocier, je sens. Il va négocier. Allez. Non.
Alors, je ne me permettrai pas de contredire ce que vous dites. Simplement, je pense qu'une personne qui étudie la Torah et qui marche dans la rue, il a déjà une influence sur les gens qui l'entourent, sans forcément enseigner ou sans forcément faire quelque chose.
Oui, tu as raison, ça veut dire...
Oui,
tu as raison.
Nous, on est des nazes. On prend quelques cours et après, on vit dans notre vie. Ouais. Mais par contre... On essaye de la vivre quand même.
Ouais. Non, c'est bien. Non, c'est bien. Non,
c'est tout. je repars dans ma carapace.
Non, c'est bien. Ce que tu dis est juste.
Hein. Et c'est pas facile.
Ce que tu dis est juste, mais si tu veux, les choses sont au niveau du qualitatif et pas du quantitatif. Effectivement, que chacun est confronté à qu'est-ce qu'il va faire de la Torah et comment va-t-il vivre et qu'est-ce qu'il va transformer de cette Torah, qu'est-ce qu'il va faire sortir au potentiel. Mais au niveau stricto sensu, ce que tu dis est juste, Arnaud, hein, c'est complètement juste. Mais au niveau stricto sensu, c'est que nous, chaque juif, on est un Sefer Torah. On est un Sefer Torah. Et qu'on a quelque chose à exprimer de cette Torah, et c'est pour ça qu'on est venu au monde. C'est ce que la Gemara dit ici. Hein. Voilà. OK. Et je ne veux pas, si vous voulez, je dis ça sans acrimonie, etc. Mais il y a ici on voit le travail personnel de transformation de la chose. C'est pour ça, hein, c'est pour ça que j'ai lancé là, Baruch Hashem, après Pessah, il y a eu cette idée de faire le cours d'hébreu biblique pour donner la possibilité d'avoir l'accès au texte, à la base du texte. Parce que tant qu'on n'a pas accès à la base du texte, eh ben on est passif quelque part. Qu'est-ce que je peux faire ? C'est comme ça, on est passif. On dit, ah oui, j'ai vu quelque chose de très très intéressant dans tel livre, ou j'ai vu quelque chose de très intéressant au cours de Rav machin sur Internet. Tout ça, c'est magnifique. Mais on passe à côté de ce que nous, on a à faire. C'est pas pour critiquer, mais c'est pour voir les choses comme elles sont. Voilà, c'est tout.
Okay. Vous avez raison, mais il faut bien se nourrir quand même pour savoir la bonne direction.
D'accord. Ok, je parle à moi-même. Cette question s'adresse à moi-même, s'adresse à vous, à moi. Mais. Voilà. Ok. Alors, ce étant, on continue. Omnam, Al-Tomar, cependant, ne dit pas Kim Yetziat Shlimut Adam El Afal, Efshar Shel Yotze Shlimuto Le Gamri Efal. Maintenant, ne dit pas que lorsque l'homme sortira sa perfection à l'effectif, ce serait possible qu'il sortira complètement sa perfection à l'effectif. Sheze Eno Klal. C'est impossible. Qui zéo briato, shim shotzi, shimuta alfa, nisha od bekoar, kemoshem lifneze, kemoshama lamad. Voilà. Là, il dit quelque chose de très important. C'est que nous, tant qu'on est vivant, on est tout le temps en potentiel. Il ne dit pas que finalement, un moment, il arrivera à son effectif. Non, il ne peut pas. Il n'arriverait pas à sa shlimut complète. Pourquoi ? Parce que ça, c'est la définition de l'homme. Adam la malioula, tant que l'homme, il est pour le labeur. Adam nivra la mal. Chez lo shvita vashlama klal. L'homme n'a pas d'arrêt et d'aboutissement. Im shu yotze la fa nisha ot tamid bekoar. Même si, par exemple, tu as, je ne sais pas, quelqu'un. Il a écrit 3 livres sur les lois de Shabbat avec des innovations que lui a réussi à transformer complètement et aboutir à un résultat. Ça, c'est un moment T. T plus 1, comme on dit, ton labeur, remets-le tout le temps sur le... Il y a une phrase en bon français.
Oui, c'est vrai.
Il y a une phrase en bon français, remets ton truc sur le...
Ton ouvrage.
Ton ouvrage. Bonjour, Michael.
Ça va, toi, Isaac.
Comment on dit ? Bonjour, il y a des gens cultivés, là, parmi nous.
On remet sur le métier à tisser. Il y a une expression, oui.
Je ne sais plus. Enfin, voilà. Donc, on doit reprendre tout le temps son labeur, même si quelqu'un... Vous voyez, par exemple, prenons un exemple dans un domaine. Vous avez, par exemple, des grands créateurs. Vous avez, je ne sais pas, Picasso. Il avait 20 ans, 22 ans. Il a fait la période bleue, la période rose. Il aurait pu s'arrêter là. Il a fait ça 20 fois sur le métier. Remettez votre moral. Voilà. Alors là, 20 fois sur le métier.
Remettez
votre magnifique. Merci. Merci Google, dit Madame Langlois. Voilà. Oui. Google forever. Voilà. Alors, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Et bien, c'est ça le sujet. Maintenant, par exemple, quelqu'un il est arrivé à quelque chose, une création spécifique, originale, comme la période bleue, la période rose de Picasso. Et bien après, il s'est régénéré encore autre chose. Encore après, régénéré encore autre chose. Régénéré encore autre chose. C'est une parabole de notre existence. Même si, dit le Maharal, qui Adam nivra la mak sheno shvita shlama klal, ve'im shu yotze la fa'al, même si il est arrivé ponctuellement à un aboutissement, nishar otamid bekor, il est toujours en potentiel. C'est pour ça que dans notre tradition, Bien évidemment, il y a un âge où les forces et déclinent, les formes physiques déclinent. Mais dans notre tradition, il n'y a pas ce qu'on appelle la retraite. La retraite à point. Il n'y a pas ni à point, ni retraite. C'est toujours le labeur. Shimaya nimsa shlimuto befa'al, car si sa perfection serait arrivée en effectif, loya nikraze amal, ça ne s'appellerait pas amal, ki lashon amal bal davar shenlo anacha. Le amal, c'est quelque chose qui n'a pas de repos, velo yavo el tarlit anacha, et ne reviendra pas au fin mot du repos. Car l'homme, tant qu'il est lié à la matérialité, il n'est pas dans la perfection effective. On passe à la page d'après. Ad asher unpad min haromer. Que lorsque la dimension d'intellect se sépare de la matérialité, alors il est dans l'effectif, dans le langage aristotélicien, c'est-à-dire dans l'intellect agent et pas l'intellect en potentiel. Le Midrash dit « Gama nefesh lotemale ». Le verset dans l'Ecclésiaste dit « Aussi l'âme ne se remplit pas ». Le fi shanefesh yodaat shekol asher tiga leatzma tiga le fika enasvea mitzvot umasim tovim, parce que l'âme sait que tout son investissement est pour elle-même, l'investissement de l'âme est pour elle-même. C'est pour ça enasvea mitzvot umasim tovim, l'âme n'est jamais rassasiée d'accomplir des mitzvot et des actes positif. Amar Rabbi Levi, Mashal Ironi, Shasa Nasui Bat Melachim, Afalpi Shemachila Kolmadane Meler, Eno Yotse Chovato, Lema Shei Bat Melachim, Kar Kolma Shifol Adam Im Nafsho, Eno Yotse Yede Chovato, Lema Shei Melemal. Rabbi Levi dit, ça ressemble à un villageois, ironie ir. Ir, dans dans notre tradition, il faut savoir que la Gemara, le Midrash, a été rédigé il y a 2000 ans environ. Donc la société était complètement différente d'aujourd'hui. La société est complètement différente. Et ce qu'on appelait « ir » à l'époque, tu avais le hameau qu'on appelle Kfar, Ir, c'est, on pourrait dire, le village, et le Krar, c'est la ville. Mais Ir, c'est plutôt le village. Voilà. Tu as un villageois qui est marié à la fille du roi. Bien qu'il lui donne à manger à sa femme, qui est la fille du roi, tous les délices royaux, il ne sera jamais quitte de ce qu'il a à faire. Pourquoi ? Parce que c'est une fille de roi. Et la fille de roi, elle ne peut jamais être rassasiée de ce que ce monde-ci peut lui donner. Pourquoi ? Parce que c'est une fille de roi. De la même manière, tout ce que l'homme pourra agir avec son âme, il ne sera jamais quitte. Parce que son âme, elle vient d'un au-dessus, d'un ailleurs qui est au-dessus. L'âme a des attentes infinies. D'ailleurs, c'est intéressant, vous savez qu'il y a un économiste français qui s'appelle Daniel Cohen, comme son nom l'indique. Il a écrit un livre il y a, je sais pas, 2 ans, un truc comme ça. Le monde est fini et le désir infini. Je sais pas si vous avez suivi ça, non ? Reprenons ce que dit Rabbi Lévi. Nous, on vient dans le monde, ce qui est dans ce troisième chapitre du Teferet Israël, on vient dans ce monde pour donner du matériau à cette âme intellectuelle et infinie qui est en nous. Et nous, on est dans un monde qui est fini. On est dans un monde qui est fini. Alors, comment les choses peuvent avoir un sens, une structure ? Eh bien, c'est par la Torah et les mitzvot qui sont à l'intérieur de ce monde fini. Les mitzvot, ce sont des actes à l'intérieur de ce monde fini. Tout ce qu'on peut faire à travers ce monde qui apporte à notre âme, eh bien, ça ne sera jamais rassasié. On est toujours dans une dimension d'accomplissement constant parce que ce monde est fini et l'âme, elle est infinie parce qu'elle vient d'en haut. Voilà, c'est ce que le Midrash dit. Entre parenthèses, ça c'est bien évidemment très très profond. Toujours je me suis demandé, nous, on est, disons, des immigrés. On est des immigrés ou des fils d'immigrés, petits-fils d'immigrés. Moi, ça m'a toujours impressionné. Par exemple, beaucoup de nos parents ou grands-parents vivaient dans des endroits très, très miséreux. Très, très, très miséreux. Et en arrivant en France, par exemple, presque tout de suite, eux ou leurs enfants, souvent c'est leurs enfants, ils ont eu des prétentions dans la société, presque dans la haute société. Mais comment ça se fait? Comment c'est possible? Comment, quand tu viens du Shtetl ou du Mellar, etc., que tu viens ici dans une société qui n'a rien à voir, et tout de suite, par exemple, première génération, tu habites à Belleville, deuxième, tu habites avenue Victor Hugo. Mais pourquoi avenue Victor Hugo? Reste à Belleville. Bon. Je ne sais pas, ceux qui sont arrivés à Sarcelles maintenant, ils habitent dans le 17e. Bon. Hein, monsieur Rabbi Michael? Première génération, Sarcelles. Oui, deuxième, comment?
Oui, il y a une vague d'Alia à Levallois, c'est vrai.
À Levallois, Neuilly, etc. Mais reste à Sarcelles. Je veux dire, Sarcelles, ça ressemble à d'où on vient, quoi. C'est le mélange.
Si c'est l'ambition d'aller à Levallois ou le souhait de quitter Sarcelles?
C'est justement parce que ça ressemble à ce d'où on vient qu'on n'a pas envie d'y rester.
Voilà, c'est ça.
Oui, mais de manière, je pense, de manière plus métaphysique, je pense que dans chacun d'un juif, il y a une âme infinie. Oui. Même s'il est, en vérité, il est dans le ghetto, dans la misère, mais son aspiration est infinie. Il est dans le gourbi. Il est dans le gourbi. Mais ça, c'est conjoncturel, en vérité. Son attente. Alors, quand il se met, il croit que son attente va être, va être rassasiée dans ce monde-ci. Alors, il va aller, il va être dans la haute société de ce monde-ci. Après, à un moment, il va se dire, est-ce que c'est vraiment là que mon attente, c'est dans la haute société de ce monde-ci? Mais des fois, sans transition, il passe du ghetto à la haute société. Bien évidemment, la société locale ne l'accepte pas, puisque c'est un parvenu. Mais il ne s'en rend pas compte. Il ne s'en rend pas compte qu'il est parvenu. Il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas se marier avec Mademoiselle De. Bon, mais ça, c'est les livres de Marcel Proust. Hein.
Il y en a qui se marient avec des Françaises, quand même.
Ouais, il y en a, mais
il y en a qui sont présidents de la République. Enfin, il y a des trucs.
Il y en a qui sont présidents de la République.
Pompidou, par exemple, d'origine du. Mais... Non, enfin bon, c'est il y en a qui y arrivent, quoi. DSK, il y arrive. Hein. Enfin, il y a plus de juifs de cour que de juifs qui refusent le monde et qui vont à Bnebrak. Enfin, je. Il y a plus de juifs qui sont dans le monde et qui acceptent le monde que même en ayant une aspiration.
La question est comment quelqu'un qui vient, parce que Pompidou, il vient d'un milieu modeste, mais il ne vient pas du gourbi. Je sais pas, je suis désolé de dire ça, mais moi je vois mes grands-parents, ils venaient vraiment de la misère de la Pologne. La misère. Ah. Ils sont arrivés ici, tout de suite, ma mère, elle a eu des cours de piano en France.
Mon grand-père, il était pieds nus dans la casbah.
Voilà, mais comment, quand tu arrives du gourbi, qu'est-ce que tu donnes des cours de piano?
Ah ben, ils kiffent, enfin, ils sont...
Non, mais c'est pas normal.
Et ils veulent une vie comme les autres, ils en ont marre.
Bon, c'est pas grave, ça ira. On réglera ça à la récré, Laurent.
Ça marche.
C'est pas grave. Mais bon, le... Enfin, passons. Mais en tout cas, le...
Peut-être que la matinée...
Ah, mais je vois, par exemple, mon père, il est né, franchement, il me l'a dit, il est né vraiment dans la misère en Pologne. Et objectivement, c'est pas une manière de dire. Objectivement. Et toute sa vie après, c'est fréquenter les peintres, les trucs, les grands peintres, machin. Et qu'est-ce qu'il a fait d'ailleurs? Quel rapport d'un mec qui naît là-bas où il n'avait pas de quoi manger et fréquenter des grands peintres, il s'en fera aucun rapport. C'est spécial. Mais je pense que c'est une parabole, mais ça est sous-entendu dans ce midrash. C'est que on est dans un monde limité et notre âme a une dimension illimitée. Donc qu'est-ce qu'on fout? Qu'est-ce qu'on fout là? Alors il dit, ce qu'on fout là, c'est par Torah ou Mitzvot, on exprime un infini à l'intérieur du fini. Mais ça, c'est quelque chose qui est tout le temps en action puisqu'on est dans une réalité finie. Donc c'est tout le temps en action. Pourquoi? Parce que l'âme qui est appelée fille de roi, elle n'est pas adaptée à ce monde fini. Donc elle attend une complétude qui n'est pas de ce monde-ci. La complétude n'est pas de ce monde-ci. Biurinyanze. Et c'est ça, moi, personnellement, ce qui me bouleverse beaucoup dans le Maharal, et que je vois rarement dans d'autres auteurs, c'est que ça touche vraiment au fond des problèmes existentiels de l'humain. Quand on dit « qu'est-ce qu'on fout là ?» si vous voulez, ça touche des questions fondamentales. « Qu'est-ce qu'on fout là ?» Et ça, on sent que le Maharal, s'il aborde ça, c'est que lui, chez lui, c'était vécu. Il vivait ça. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que j'ai à faire dans la vie? C'est une question. Biur Inyanzi. Explication. En effet, Shazot, cette âme, chez Melemaala, qui vient d'en haut, au Medet, Metartonim, se trouve dans les réalités inférieures. Tamid, imishto keket et la Torah ve la mitzvot, bema shei Metartonim. Elle palpite, toute sa réalité de palpiter pour la Torah et les mitzvot, parce qu'elle est dans la réalité inférieure. Il n'y a que Torah ou mitzvot qui transforme, il n'y a que Torah ou mitzvot qui transforme ce monde fini en un accès à quelque chose d'infini.
Exact.
C'est même le... Quelqu'un, par exemple, qui va il va se dire, voilà, moi, j'ai un besoin spirituel en moi, je vais faire de la philo. Mais la philo, c'est les hommes qui ont écrit la philo. Donc, il y a une dimension d'une pensée limitée. Ça peut être percutant, mais c'est une pensée limitée. La Torah, c'est une pensée qui touche notre réalité, mais qui met une dimension illimitée. Donc là, l'âme, elle palpite à Torah ou mitzvot. Et d'abord, les chissanom madrigan irshav la shietzem nefesh elokim elemala omedet betartonim. Et par la déficience du niveau de ce monde, et considérer l'âme, une essence d'une âme divine qui vient d'en haut, qui se trouve dans les réalités d'en bas. Mais kol davar shuchaser mishtokek el hashlama. Tout ce qui est manquant palpite vers ce qui va la compléter. La Torah va mitzvot em hashlama el hanefesh. Il n'y a que la Torah et les mitzvot qui correspond à l'âme infinie. Bishvilka mishtokeket anefesh et la Torah ve la mitzvot. C'est pour ça l'âme palpite à la Torah et les mitzvot pour sortir à son effectif et arriver à une complétude. Omnam, lotisva mitzvot umasim tovim. Mais elle sera jamais rassasiée de mitzvot umasim tovim. Bema sheomedet betartonim beguf adam. Tant que l'âme est dans la réalité inférieure, elle ne sera jamais rassasiée, jamais aboutie. Le karena mushlemet betartonim begouf achomari. C'est pour ça, tant qu'elle est dans la réalité inférieure, dans le corps matériel, elle n'est jamais parfaite. Kivan shena mushlemet, étant donné qu'elle n'est pas parfaite, ena sevea mitzot ou masim tovim, elle n'est pas rassasiée de mitzot ou masim tovim, rakimishtokeket tamid, liota mushlemet legamre. Mais elle palpite d'arriver à son aboutissement. Mais elle ne l'est jamais. Hachetavo el ataklit, jusqu'à ce qu'elle arrive à son but. Bema shietzem elokim melemala, parce qu'elle est une essence divine d'en haut. Les eshum dameota elbat meler, chez Nissel et Ironie. Donc l'âme ressemble, donc l'âme dans le corps, ressemble à fille d'un roi mariée à un villageois. Vim shunotella kol madane olam eno yotse yede chovato. Même s'il lui donne tout, il lui achète tout Ikea. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je t'achète tout Ikea. Non, ça ne me suffit pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, Elle est tout le temps en manque. Kohashem Nutella sauf sauf i imaroni chez nos zivug chez là. Parce que finalement, elle est mariée avec un villageois et c'est pas le compagnon qu'il lui faut. C'est ça, ça marche pas. Le quart. Donc ici, si vous voulez, ce passage, me semble-t-il, il est absolument central parce qu'il thématise la névrose juive. Parce que le juif est névrosé ou névrosé juif. Ouais, vous voyez, moi, je connais pas les films de Woody Allen. Je connais pas. Non, vraiment, je connais pas. On m'a dit que il a thématisé la névrose juive. Mais bon, je sais pas exactement. Je connais pas. Franchement, il y a une chose que je connais un peu, mais moi, je connais pas. Bien. Mais en tout cas, le juif est névrosé. C'est-à-dire, vous savez qu'est-ce que c'est la différence entre un psychotique et un névrosé, Antoine?
Faut pas dire de bêtises, mais le psychotique a une dimension plus de l'imagination, non?
Non, mais de manière humoristique. Hein, sans... Alors, moi j'ai vu une définition qui est pas mal. C'est que le névrosé, il sait que 2 plus 2 égale 4, mais ça ne suffit pas. Ça le met mal à l'aise. Et le psychotique, pour lui, 2 plus 2 égale 5. Non, plus que 5. Ça va. Voilà. Mais le névrosé, c'est 2 plus 2. Il sait que 2 plus 2, ça fait 4. Mais ça ne lui suffit pas. Mais c'est, en réalité, c'est humoristique, mais c'est exactement ça. Que ici, le Maharal, et c'est au risque de me répéter, moi, je ne connais pas un auteur, il y en a peut-être, hein, mais qui arrive à donner des lettres de noblesse à la névrose. Non, parce que quelqu'un est névrosé, tu vas dire, mon pauvre chou, ouais, fais un effort, prends sur toi, finalement, tu devrais, quand même, tu devrais, avec l'expérience, assumer certaines choses dans l'existence. Dis, non, on est à côté de nos pompes. Et si tu crois que tu vas arriver à ne pas être à côté de tes pompes, là, tu te trompes. C'est structurel d'être à côté de nos pompes. Non, ça c'est nouveau. J'ai cassé le moral à Philippe. Ouais. Non, mais là, c'est vraiment une innovation. C'est vraiment un chidouche atsoum. C'est un chidouche atsoum. Il dit, je reprends, sauf sauf, i imironi, sheno zivuk shela, finalement, l'âme du juif, est avec un villageois qui n'est pas son couple. C'est un mauvais chidour, on est dans un mauvais chidour. Dieu nous a mis dans un mauvais chidour.
Ou alors, c'est paradoxal. Parce que c'est peut-être ce mauvais chidour qui fait qu'on est toujours en questionnement. On est toujours en manque. On est toujours en le besoin d'aller plus loin.
Voilà.
Si on était avec le couple, le partenaire parfait, il n'y aurait plus rien à... Ça ne bougerait plus.
C'est pour ça.
Oui, c'est ça.
C'est pour ça, si vous voulez, que dans notre tradition, il y a des traditions où les gens... ce qu'ils appellent les gens de spiritualité. Les gens de spiritualité, ils font des jeûnes, ils ne se marient pas, ils font vœu de pauvreté, etc. Or nous, un juif, il se marie, il a des enfants, il doit, comme Antoine Lévy a soulevé tout à l'heure, si on a une famille, ben, il faut assumer financièrement cette famille. Et la Torah te demande d'assumer financièrement. Et d'un autre côté, on te dit, ok, tu as une seule chose à faire dans la vie, c'est de concrétiser le Sefer Torah qui est en toi. Alors comment je fais? Tu ne peux pas. Tu n'auras pas de solution. Enfin, il n'y a pas une solution. Tu dois être en
recherche de solution.
En labeur, en équilibre instable, constant par rapport à tout ça. Voilà. C'est extraordinaire. On dirait que c'est toute notre vie est dans ce chapitre-là. Toutes nos problématiques de vie est dans ce chapitre.
Éloge de la névrose.
Voilà, éloge de la névrose. Voilà. Éloge de la névrose. C'est...
Hors névrose, point de salut.
On y va.
C'est pas ainsi avec le temple ?
Comment ? Ouais. Que dis-tu ?
Quand il y avait Israël et on avait construit le temple et on était tous en...
Alors peut-être que c'est encore plus fort.
On n'était pas en inadéquation avec le monde.
Peut-être que l'inadéquation était encore plus forte. Peut-être.
Ah ouais.
Peut-être.
D'accord.
Alors, le cas lo yachol la sot que fit à Raoula. Donc, il ne peut pas lui faire ce qui lui revient chez Bat Meller. C'est la fille d'un roi. Shalkol panim mitraberel orni parce que cette fille de roi est mariée avec un villageois. Vélo Meller est pas un roi. Le kareno yotse yedechovato ima. Donc, le villageois n'arrivera jamais à donner ce qu'elle attend. Bechen kacher anefesh shimelemala de la même manière. Étant donné que l'âme vient d'en haut, af ki amitzvot va Torah emietzia la elashlemut. Bien que les mitzvot et la Torah et la sortie vers la concrétisation. Par le fait que l'âme se trouve dans les réalités d'en bas, dans le corps de l'homme, et que c'est une essence séparée des réalités supérieures, l'autre est kabel ashlama et ne trouve pas de perfection dans la réalité d'en bas. Le karena sevea mina mitzvot. C'est pour ça qu'elle n'est jamais rassasiée des mitzvot. Venir chevet bekoar kol yemeyota imaguf. Donc elle est considérée dans le potentiel tant qu'elle est avec le corps. Zema shel ratsinu levaer. C'est ce que nous avons voulu expliquer. Et davarze mechayev Torah mina shamayim. Donc cela impose que la Torah vient du ciel. Donc maintenant, la spécificité de ce qui donnera une possibilité de mouvement, de créativité et non d'aboutissement, c'est Torah mitzvot. Cela impose que la Torah est divine. Le mi sheyodea inyan anefesh ou midra ou madre kata she minashamaim. Donc là, il va introduire une nouvelle chose. Cela impose que la Torah est divine. Pour celui qui comprend le niveau de l'âme et son niveau qui vient du ciel, etzem bilti mushlam, qui est une essence non limitée. Le kar ashlamata aliede à Torah au mitzvot. C'est pour ça, la complétude de l'âme, c'est par Torah au mitzvot, kemo shid baer be ezrat Hashem ilvara, comme nous allons développer avec l'aide de Dieu. Kinatala mala yoter alcool, parce que lui a été donné le niveau supérieur, surtout, c'est quoi? À Torah, qui est la Torah, l'ashlim chisrona, pour compléter son manque. Donc, regardez, ici, c'est toute l'histoire du peuple juif qui est en jeu. Vous savez, le judaïsme français est en partie très important de ce qu'on appelle des balais de Shuvah. Les balais de Shuvah, des gens dont les parents juifs, et bon, ce n'était pas tellement leur problème, Torah ou Mitzvot, comme on a dit tout à l'heure, c'était des immigrés ou des fils d'immigrés, etc. Donc, ils arrivent, il faut bien s'adapter, ils nous disent, nos parents nous disent, voilà, on est arrivé dans le pays extraordinaire, la France, le pays de la culture, le pays du camembert, donc le pays de la culture, des sciences, de la tolérance, de l'ouverture d'esprit, c'est magnifique, voilà. Et vous allez être des Erlere Franzosen, vous allez être des vrais Français, ça va être parfait. Et il y en a beaucoup, et ils ont été élevés comme ça. On va à l'école laïque et républicaine, et on s'ennuie, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le pays de cocaïne, c'est ça l'aboutissement. Et donc, on retrouve Torah ou Mitzvot. En vérité, il y a des commentaires qui ont développé que la galoute est une possibilité quelque part, certes, d'assimilation, mais aussi de renouveau du peuple d'Israël. Par le fait que les enfants d'Israël se retrouvent dans des cultures qui, finalement, n'ont à offrir que ce qu'elles ont à offrir, c'est exactement ce qu'il dit ici. Elles sont gentilles, elles nous offrent ce qu'elles ont à offrir. Mais finalement, par rapport à ce que l'âme juive attend, c'est paysan, c'est gentillet, mais peut mieux faire. Et quand on découvre la Torah qui est dans une recherche constante et qui se remet tout le temps, qui nous donne le goût d'un infini, le goût d'un travail constant qui correspond à ce que profondément on est, alors là, ça, on découvre cette dimension de Torah Min HaShamayim. C'est ça ce qui va dire qu'il y a une dimension d'une connaissance qui n'est pas limitée et qui est dans une recherche, un travail constant et qui n'est pas dans un dogmatisme, dans un truc, un machin, un système. Il n'y a pas de système. C'est autre chose qu'un système. On ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est d'ailleurs, mais autre chose qu'un système. Donc là, ça, il y a la découverte. Si l'âme a ces dimensions d'infini, donc la Torah, il s'impose que la Torah, elle, soit aussi du ciel. C'est ce qu'on appelle un des principes que Torah min haShamayim, la Torah, elle est divine. Le cas, Rashlamata, l'idée à Torah, c'est pour ça, l'homme arrive à cette perfection par la Torah, la mitzvot, qui n'atteint la ma'ala yoter alcool, car Dieu a donné le niveau supérieur au-dessus de tout, c'est la Torah, la shlim chisrona, pour quelque part rassasier son manque. Bavou shanefesh mishtokeket tamid el ashlama, car l'âme palpite toujours vers la ashlama, mipne shomedet betartonim, parce que l'âme se trouve dans les réalités inférieures, ve'im in ashamaim, mais l'âme vient du ciel. Ce qu'elle peut arriver à concrétiser, elle concrétise. Mais dès qu'elle a concrétisé, il faut tout de suite qu'elle remette 20 fois.
Le métier.
20 fois.
Le métier, son
20 ouvrage. Fois quoi? Comment?
Sur le métier, son ouvrage.
Sur le métier, son ouvrage.
Pas cher.
Ouais. 20 fois. D'accord? Une seconde. Là, j'ai.
Nous, c'est 100 et une fois.
Oui, c'est ce qu'on dit effectivement. Ce que dit Philippe, c'est que les Chachamim nous disent que quand on étudie, la 101e fois qu'on étudie est complètement supérieure à la 100e fois qu'on a étudié. Alors, on commence le 4e chapitre. Me semble-t-il, ça vaudrait le coup de faire une synthèse de ce 3e chapitre, parce que donc, on va appeler ça, effectivement, éloge de la névrose. Et je pense que c'est très, très important d'un point de vue même thérapeutique. Il y a des gens qui sont un peu pas bien, mais si ils comprenaient que leur déséquilibre est structurel, leur déséquilibre vient d'un bon fond, si on peut s'exprimer ainsi, ça pourrait aider à supporter. C'est ce qu'on dit. C'est ce que le verset dans Tehilim dit, loulé Torah Techa Shashuai Az Ovati Ve'oni. Si ce n'était ta Torah qui me donne de la joie, je serais détruit dans ma pauvreté. Donc il y a que la Torah qui peut nous donner ce lien entre cet infini et qu'est-ce qu'on a à faire à l'intérieur de ce monde fini qui s'appelle Torah Mitzvot. Que la Torah qui peut nous donner une nechama, une consolation de quel est notre positionnement dans notre existence. Alors, c'est ce qui est traité dans le troisième chapitre. Maintenant, il va traiter, une fois qu'il a parlé de l'âme de l'homme, une nefesh. Alors, la réponse au nefesh, c'est la Torah qui est mina shamaim. C'est le quatrième chapitre, on va commencer.
Ah, juste une question. Je crois qu'on avait vu que dans le monde, il y avait une dimension de perfection dans la création. Et là on précise que l'âme ne peut pas trouver sa perfection puisque le monde a une dimension inférieure. Alors, comment on concilie les deux ?
Je pense que la perfection dans ce monde, c'est justement qu'on lutte contre l'imperfection. Donc, on veut aller plus loin que notre imperfection. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en mouvement, et c'est ce mouvement, cet infini de mouvements, de recherche, qui est peut-être la perfection.
Oui, oui, c'est juste ce que tu dis, mais je reprends la question d'Antoine. C'est que nous avons vu dans d'autres études que le monde, ce monde, est l'expression d'une volonté pleine de Dieu, n'est-ce pas ? Pleine. C'est ce qu'on appelle Shaddai, Shamar le Olamodai. Mais ça, c'est dans une certaine dimension. Mais la Neshama de l'homme, le Nefesh, est au-dessus de cette dimension. Il y a une dimension de perfection. Quand tu vois, je ne sais pas moi, un papillon magnifique, où tu vois un paysage magnifique, il y a une perfection. Il y a une perfection. Mais le nefesh est d'un autre ordre que cette perfection. Un autre ordre.
D'accord.
Alors, Perek Revi. Adrachim va peulot asher em mevim el atzlacha em mitzvot ator. Les chemins. Entre parenthèses, j'ai vu dans des livres de Chassidut qui disent que les mitzvot sont appelés etzot. Etzot, ça veut dire des conseils. Par exemple, il y a un livre de Rav Narman de Bratslav qui s'appelle L'Ikuté Etzot. Des recueils de conseils. C'est des conseils, quoi faire ? Quoi faire, monsieur ? Quoi faire, madame ? Qu'est-ce que je fais ? Dites-moi, qu'est-ce que je fais ? Dans quelle direction aller ? Ça, c'est les mitzvot. Bien évidemment, le sens de mitzvot a beaucoup de sens, mais un des sens, c'est etza, c'est conseil. Adrachim, va peulot, asher emevim el atzlacha, em mitzvot ator. Les chemins et les actions qui amènent à la réussite sont les mitzvot de la Torah. Shebezulatam ayanisha bekoar kemoshil baer od. Car si ce n'était Torah au mitzvot, les mitzvot, l'homme resterait toujours en potentiel. ומם כמו החבל שמעלים את האדם מבור התחתיות הוא העולם השפל העולם העליון להושיב אותו עם המלך השם צבקות עין בעין כמו שבאר עניין זה. les mitzvot sont comme une corde qui fait monter l'homme d'un puits profond qui fait monter, qui est le monde d'ici-bas, vers le monde supérieur pour l'asseoir avec le roi Hachem Tzevakot face à face. Donc les mitzvot sont la corde. Nous, on est dans ce monde-ci, un monde comme si on était dans un puits, on est englouti dans un puits profond. Et les mitzvot, elles nous font monter comme une corde. Accroche-toi à la corde, vas-y, accroche-toi à la corde, on va tirer. Et ça te fait tirer pour arriver à être assis à côté du roi Hachem, face à face. D'ailleurs, on avait dit dans une étude précédente que le tétragramme se trouvait dans, il y avait le tétragramme se trouvait dans le mot mitzvah, n'est-ce pas? On est d'accord? Antoine, au tableau.
Le tétragramme dans le mot mitzvah.
Ouais.
On a un mauvais élève pour ce point-là.
Oui, Michael, tu te souviens?
Oui, avec le Hadbash.
Hadbash, Razak. Un petit clapping du matin. Paf. Alors, comment? Parce que même Etsadé, c'est en Hadbash, c'est-à-dire de manière inversée, le Yud. C'est la dernière lettre. Mais si tu commences à partir de la fin, la dixième lettre à partir de la fin, c'est le même. Voilà. Et le E, c'est la cinquième lettre. Or, en Hadbash, la cinquième lettre à partir de la fin, c'est le Tsadé. Donc, tu as Yud Ke, les deux dernières lettres de Mitzvah, c'est Vav E. Tu as Yudke Vavke dans le mot mitzvah. Mais pourquoi? Parce que comme c'est à l'intérieur des gestes matériels, donc c'est dans la discrétion, c'est en vérité, c'est le dévoilement du nom de Dieu dans la discrétion de ce monde-ci, c'est la mitzvah. Donc de manière pudique, pas de manière grandiloquente. Mais au début, de manière à l'envers, donc ça veut dire c'est de manière codée, de manière discrète, et le dévoilement du nom de Dieu dans la réalité de ce monde-ci, c'est ça la mitzvah. Et ça, c'est la corde qui fait que on se dévoile à travers ce monde-ci. La possibilité d'être en face d'Hachem, assis à côté d'Hachem, face à face.
Alors Isaac Michela, juste.
Oui.
Là, ce que dit le Maharal apparemment, c'est que pour nourrir cet infini qui est en nous, c'est seulement les mitzvot et la Torah qui permettent de trouver cet équilibre, enfin, c'est Mikor et la Poal, mais il ne définit pas de quelle mitzvah et de quelle Torah on parle. Est-ce que c'est quelque chose de ségouli, de mécanique, c'est-à-dire le simple fait de se mettre à étudier ou de se mettre à faire une mitzvah, alors ça nourrit la princesse qui est en nous ou c'est plus que ça? Parce qu'on voit bien que le kiyum des mitzvot ou l'étude de la Torah, enfin, de quelle Torah s'agit-il, de quelle mitzvot s'agit-il vraiment quand on parle de cet épanouissement et de cet équilibre de l'infini?
Oui, alors là, comme on a vu dans la Gemara de Tzadé Tet Amoud Bet, dans Maseret Sanhedrin, Adam l'amal yulad, l'homme est né pour le labeur, l'homme est né pour le labeur, donc ça veut dire que ça n'est qu'une Torah et mitzvot dans un investissement, si ça n'est que un mal à Torah. S'il n'y a pas de amal à Torah et amal à mitzvot, et qu'il y a une volonté, tu veux, je prendrai de manière, je conclurai notre étude. Tu vois, t'as la Gemara dans ma Maseret Betsaï dit, si la Torah n'avait pas été donnée, les enfants d'Israël, ils détruiraient le monde. Prenons un exemple. Ceux qui ont inventé la bombe atomique, c'était pratiquement pas que des juifs, mais pratiquement que des juifs. Que ça soit aux États-Unis ou que ce soit en URSS à l'époque, par exemple, vous savez, celui qui a créé la bombe atomique russe, comment il s'appelait ? Entre nous, entre la poire et le fromage, là. Il s'appelait Lev Landau. Ouais. Landau, c'est des grandes familles des grandes familles rabbiniques. Et un de ceux qui était dans le projet Manhattan, c'était pratiquement que des juifs. Donc, le concepteur numéro un, c'était Robert Oppenheimer. Bon. Et les bombes atomiques, ça fait sauter la planète, je ne sais pas. Bon, on n'est pas pressé, mais doucement. Mais il y a de quoi faire sauter la planète. Mais on peut comprendre, parce que l'âme juive est infinie. Si l'âme juive, tu la mets dans la recherche de ce monde-ci, ça veut dire quelqu'un, bon, comme beaucoup d'entre nous, ils vendent rue de Turenne des costumes. Bon, mais tu vois, même les juifs, les vendeurs de schmattes, moi j'ai beaucoup vendu, beaucoup connu des vendeurs de schmattes, parce que toute ma famille, pratiquement, c'était des vendeurs de schmattes. Mais les vendeurs de schmattes, souvent, ils font autre chose à côté. Par exemple, souvent, ils ont milité politiquement, ils ont voulu transformer la société, etc. Que sais-je. Donc, transformer la société. Pourquoi tu veux transformer la société? Elle est bien, la société. Non, on veut autre chose. On veut parce que l'âme, elle n'est pas rassasiée dans ce monde-ci. Et quelque part, si elle investit dans la recherche de ce monde-ci, mais dans la recherche investie. Donc là, l'investissement de l'âme, qui est le hamal, l'investissement, s'il est dans des choses de ce monde-ci ou la connaissance de ce monde-ci, il va chercher l'illimité dans ce qui est limité. L'illimité dans ce qui est limité, il risque de casser les choses. Mais dans quoi cet investissement et cette recherche peut se construire et arriver à une hachlama, ça c'est Torah au mitzvot. Donc ta question, Michael, qui est très importante, ça n'est qu'une Torah qui est béhamal. Mais c'est une Torah qui n'est pas béhamal, ça ne construit pas. Ça ne construit pas. Ça, c'est comment dire, au contraire, même ça endort. Au contraire de construire.
Oui.
Ok. Oui. Bien. Ça vaudrait le coup de rédiger sur le troisième chapitre. Hein, on va faire ça un moment ou un autre. Allez.
Hadak.
On passe, nous, au cours de Gemara. C'est parti.